Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission Lumière de l'Espérance, émission au nom très sympathique, dont je ne suis pas du tout l'auteur. Et nous allons aujourd'hui, après un point d'actualité médicale avec le docteur Philippe Piloquet, qui est à distance mais que je vois à l'écran. Docteur Piloquet, vous me voyez ?
Monsieur Tassot.
Voilà, très bien. Donc, heureux de vous avoir en ligne. Et donc, après votre point d'actualité médicale, nous aurons comme invité M. Gérard Gertoux, qui est assyriologue et qui vient de publier un livre, Le mensonge de la préhistoire. Il y a un sous-titre dont nous parlerons après, mais qui est évidemment un titre un peu provocateur, mais qui est fort intéressant. Et j'ai lu ce livre et j'ai cru utile de... à ce qu'il puisse vous en parler. Donc, avant d'entamer le vif du sujet, la préhistoire, docteur Philoquet, de quoi vous allez-nous vous parler ? Alors, je rappelle que c'est une émission en direct, hein, et donc oui. Vous pouvez nous... Alors, malheureusement, pas téléphoner, mais vous pouvez envoyer des courriels avec vos questions, vos remarques, à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonjour à votre invité et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets particuliers. Tout d'abord, un sujet un petit peu médiatique puisque et politique concernant le radiologue le sénateur Alain Houpert. Celui-ci a été condamné suite à des déclarations sur les réseaux sociaux en 2021 et 2022 concernant le Covid et ses traitements. Alors, vous l'imaginez, plusieurs plaintes ont été déposées à l'époque par le Conseil de l'Ordre des médecins et également une association dont le docteur Jérôme Marty est le président, qui est l'association des médecins libres. Oui, c'est un sujet, vous allez le voir, intéressant. Donc, condamné en 2021 à 18 mois de défense d'exercer la médecine, dont 9 avec sursis. Il a bien sûr fait appel et la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre a ramené la sanction à 6 mois, et c'était en 2024. Et... enfin, le Conseil d'État a annulé cette condamnation, ce qui est quand même important. La raison est simple, les préconisations de ce médecin étaient réalisées sur les réseaux sociaux et pas de façon individuelle. Il ne s'agissait donc pas d'une prescription à des patients, mais bien de son avis sur des réseaux sociaux, ce qui annulait la condamnation du Conseil de l'Ordre.
Ça me paraît d'ailleurs normal qu'on ait annulé cette condamnation, parce que enfin, je veux dire, le rôle d'un médecin, c'est de soigner. S'il a des idées de soins, alors évidemment, à condition qu'il ait raison, mais malgré tout, même à la limite, même s'il avait tort, enfin, l'idée de vouloir aider son prochain est tout à fait fondamentale, devrait l'être dans la pratique de la médecine.
Oui, c'est en effet ce qui a été retenu par le Conseil de l'Ordre, le Conseil d'État, en disant qu'il s'agissait simplement de son avis personnel destiné à tout le monde, entre guillemets, mais pas de façon fléchée, ciblée sur un patient donné. Et donc, bien sûr, il avait critiqué en particulier la politique concernant la vaccination, et les traitements que vous connaissez, dont on a beaucoup parlé, l'hydroxychloroquine et les autres molécules qui étaient pour lui à conseiller dans le cadre de cette pathologie. Donc ça, c'est une affaire qui a été résolue, ou tout au moins terminée, même si elle ne l'est pas complètement, hein, le mois dernier. Et donc, on peut quand même s'en réjouir. La deuxième chose dont je voulais vous parler n'est pas un problème, je dirais, récent, puisqu'il s'agit en fait d'utiliser un système enzymatique qui a été découvert il y a longtemps, enfin longtemps, il y a une quinzaine d'années, et qui est CRISPR-Cas9. Alors, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose. CRISPR-Cas9, c'est un complexe protéique que l'on a trouvé chez la bactérie. Et il y a eu d'ailleurs pour cette découverte un prix Nobel de chimie décerné à deux chercheurs, deux femmes, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna en 2020. Alors, ce CRISPR-Cas9, cette molécule protéique, a un pouvoir étonnant utilisé par les bactéries, c'est de se fixer sur notre génome, sur l'ADN ou l'ARN d'ailleurs, de se fixer, de reconnaître précisément une séquence nucléotidique et à la suite de cette reconnaissance qui est très précise, de couper l'ADN et éventuellement d'insérer un fragment d'ADN pour, par exemple, réparer un gène. Et donc, ça a été une découverte qui est fondamentale puisqu'elle va permettre ce qu'on appelle l'édition du génome et son éventuelle correction. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur le sujet parce que c'est un sujet qui donnera certainement des résultats presque fantastiques. Alors, je vous cite par exemple en 2022, on a guéri des hémoglobinopathies telles que la thalassémie ou la drépanocytose, qui correspondent à des anomalies en fait d'une globine, de l'hémoglobine, et on va corriger la production anormale de cette hémoglobine chez un patient donné grâce à l'introduction. Donc on va corriger l'anomalie. Alors je vous passe les détails parce que pour chaque pathologie c'est un peu spécifique. Mais on va corriger cette pathologie grâce à CRISPR-Cas9.
Alors, j'ai une question pour vous, parce que ce qu'on corrige, donc, c'est un génome. Ce génome, oui. Il est dans une cellule, il n'existe pas tout seul. Et exactement. Il y a 30 milliards de cellules dans le corps humain. Donc, comment peut-on, en modifiant l'ADN dans une cellule, guérir un être complet?
Alors, c'est tout là l'intérêt de cette technique qui est ciblée, vous l'avez compris. Si je prends l'exemple de l'hémoglobine, c'est une protéine que l'on trouve dans les globules rouges, et on va donc utiliser des cellules souches des globules rouges que l'on modifie génétiquement par CRISPR-Cas9 et qu'on va, dans le cas présent, réintroduire dans le patient. Et ces cellules souches hématopoïétiques qui fabriquent, qui donneront les globules rouges, vont aller, une fois la transfusion faite, réhabiter les moelles osseuses, puisque c'est là qu'elles se trouvent naturellement, et fabriquer de nouveau des globules rouges normaux.
Et qu'elles vont se multiplier, elles aussi,
oui.
De façon...
Oui, et ça c'est un élément très important qu'il faut bien comprendre, puisque ce sont des génomes qui sont modifiés. La division de ces cellules, s'il y en a, vont tenir compte de cette modification et vont donc propager, entre guillemets, la modification qui a été réalisée. Alors c'est à double tranchant, puisque si les cibles sont bonnes, si les cellules guéries sont limitées, elles vont donner de nouvelles cellules normales, je vais dire. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'événements indésirables, et c'est tout le problème actuel de sélectionner de façon spécifique les cellules à soigner.
Et donc, il faudra encore certainement beaucoup de temps pour mettre au point ce genre de
thérapie. Il faudra certainement quelques temps. On a fait même chose, on a utilisé CRISPR-Cas9 pour la myopathie du chêne chez la souris, et on a guéri des souris de cette myopathie, qui est pour l'instant à l'état souris, évidemment. C'est une espèce particulière, mais on a un bon nombre de modifications qui sont envisageables. Et la dernière en date, enfin une des dernières, c'est la trisomie 21. Puisque des équipes arrivent maintenant à cibler un chromosome 21 surnuméraire pour le détruire, en provoquant en fait des coupures grâce à CRISPR-Cas9, des coupures ciblées sur un chromosome 21 qui est en trop, Et dans le contexte de cette trisomie 21, eh bien, vous avez, entre guillemets, la guérison de la cellule qui a perdu, lorsqu'elle se divise, des bouts de 21 qui ne sont pas désirables.
Et est-ce qu'on peut envisager ce genre de thérapie avant la naissance?
Alors, c'est tout le problème. Vous savez bien que l'homme n'est pas toujours très sage. Et donc, il y a eu déjà plusieurs essais, en particulier par les Chinois, de modification du génome embryonnaire. Alors là, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, on est capable, grâce à cette technologie, de réaliser bon nombre de modifications génétiques. Encore faut-il que ce soit éthique, contrôlé, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, parce qu'on peut le faire, c'est vrai, très précocement.
Écoutez, docteur Philopier, merci de cette intervention extrêmement sympathique, parce que quand on a de bonnes nouvelles, c'est important de le remarquer, parce que il n'y a pas que des bonnes nouvelles.
Non.
Et il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais donc, il est paru un livre dont le titre est « Le mensonge de la préhistoire ». Alors, pour moi, c'est plutôt... Enfin, ce titre me paraît plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, ça, c'est le titre et le sous-titre, d'après ce que j'ai compris. Le titre était choisi par l'éditeur, qui, évidemment, veut vendre son livre. Et le sous-titre, c'était le vôtre. Alors, quel est ce sous-titre, Gérard Gertus?
Alors, le sous-titre, c'était « Imposture chronologique. Il y a eu un premier homme ». Voilà, parce que, effectivement, si l'homme a été créé, il y a eu un premier homme. La Bible dit que c'est Adam. S'il y a une théorie de l'évolution, ça veut dire que l'homme vient du singe ou d'autre chose, parce qu'on ne sait plus très bien aujourd'hui, d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu de premier homme. Il y a une sorte de dissolution dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème logique, tout simple. Est-ce qu'il y a eu un premier homme? Alors, vu présenté comme ça, c'était pas assez provocateur. L'éditeur a dit, non, il faut carrément dire les choses, le mensonge à préhistoire. Parce que la préhistoire laisse penser qu'il y a des hommes préhistoriques et qu'on remonte dans le temps, on sait, des millions d'années, etc.
Alors ça pose quand même un problème, parce que normalement la préhistoire est une science, enfin du moins c'est présenté comme une science, et comment, normalement le scientifique est quelqu'un qui cherche la vérité, comment peut-il se trouver des mensonges dans une discipline scientifique?
Alors le scientifique normalement cherche la vérité, c'est pour ça que ça fait la force de la science. Mais les scientifiques sont des humains et ils peuvent mentir. Alors qu'est-ce qui peut fausser les choses? Il y a plusieurs choses, donc il y a tout simplement des fois l'avidité. On a vu, par exemple, quand il y a eu des scandales qui ont été révélés par des scientifiques, par exemple sur le tabac, c'est les premiers scandales qui ont fait un petit peu bouger les marchands de tabac, qui se sont inquiétés et qui ont financé des études pour montrer que finalement, ça pouvait très bien être autre chose que le tabac. Donc, ils ont un petit peu utilisé, c'est de la corruption quand même, quelque part. Et donc, il y a eu des émissions qui ont montré qu'ils fabriquaient de l'ignorance, et même fabriquer du mensonge.
Donc là, on comprend très bien l'intérêt du mensonge. Mais la préhistoire, il n'y a pas...
Alors, il n'y a pas d'intérêt d'argent. Alors, la préhistoire, c'est plutôt un intérêt idéologique. Depuis très longtemps, les dirigeants ont cherché... Alors, ce n'était pas des scientifiques en tant que tels, on pourrait dire des intellectuels ou des gens, des chercheurs quelconques, pour donner un récit qui soit en accord avec ce que prônaient les dirigeants. Donc, la préhistoire, c'est un phénomène qui laisse penser que l'homme viendrait donc d'hommes préhistoriques. C'est tel que c'est présenté. C'est donc, quand est-ce que c'est apparu? Alors c'est apparu, alors, on pourrait dire que c'est la théorie de Darwin qui a été les prémices de cette science, en quelque sorte, parce que Darwin était naturaliste, pardon. Et il a commencé à imaginer, effectivement, que l'homme pouvait descendre du singe, et puis finalement, depuis des millions d'années, parce que il n'y a pas tellement des fossiles, donc il a supposé ça. Donc c'était déjà les prémices.
Alors vous avez employé le mot « imaginer ».
Oui, imaginer.
Et c'est à la page 10 de votre livre, vous donnez une citation de Coppens, Yves Coppens, qui est évidemment un grand nom de la préhistoire, et il parle du devoir d'imaginer. Alors ça m'a quand même... surpris et un peu choqué, parce que justement, Comment peut-il avoir un devoir d'imaginer en science alors que la science, normalement, part ouais. d'observation?
Alors, effectivement, c'est troublant. Enfin, beaucoup de paléontologues le reconnaissent. Hein. Ils sont quand même honnêtes en disant qu'ils imaginent. Alors, c'est quand même troublant parce qu'un scientifique, ce n'est pas l'imagination qu'on lui demande, c'est des vérifications. Il peut faire des théories, c'est normal, mais il doit montrer est-ce qu'elles sont vérifiées, parce que tant qu'elles ne sont pas vérifiées, ça reste que des théories fondées sur l'imagination. Et donc, bah, c'est ça le problème, c'est que les hommes préhistoriques, les paléontologues, imaginent, et quand on veut avoir des preuves, ben, on ne les a pas. Alors pourquoi la préhistoire est née? En fait, les premiers qui ont commencé à imaginer cette préhistoire...
Oui, parce que le mot préhistoire est assez récent, finalement.
Oui, alors le mot préhistoire, c'est avant l'histoire. Donc, c'est pas le domaine des historiens, c'est le domaine des archéologues. Donc, quand on dit préhistorien, en fait, c'est archéologue. Et les archéologues, les premiers qui ont commencé à imaginer cette préhistoire, c'est des linguistes et archéologues allemands, c'est Gustav Kosina, qui était un Allemand, et qui, dans les années 20, a commencé à imaginer des hommes préhistoriques, et surtout, c'était commencé les prémices des hommes indo-ariens, etc., des races supérieures, parce qu'il était convaincu que la théorie de l'évolution s'appliquait à l'homme, et donc ce qu'on appelle darwinisme social, donc survivance, enfin, lutte pour la vie, survivance du plus apte, voilà. Et donc, il voulait promouvoir cette théorie auquel il croyait, et donc il a commencé à imaginer donc une préhistoire qui éliminait donc le récit biblique carrément. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Goebbels, dans son livre, explique carrément pourquoi il a promu la préhistoire. La préhistoire a été multipliée par 6 entre 39 et 45, et Goebbels explique que le but de la préhistoire, c'est d'éliminer la gangrène judéo-chrétienne, voilà comment il la qualifie, et qu'est-ce qu'il jugeait comme ce qu'il fallait éliminer, ces deux mythes qui étaient gênants pour lui, pour Goebbels, et en fait pour les nazis. C'était le mythe adamique, parce que si on vient d'Adam, on est tous frères, donc ça, c'est pas possible, parce que ceux qui croyaient à la supériorité de la race aryenne, qui devait dominer les autres races, voire même les éliminer, ça n'allait pas du tout dans ce schéma-là. Donc, alors que la théorie de l'évolution s'y pliait parfaitement. Donc, il fallait éliminer le premier mythe adamique. Et le deuxième mythe qu'il fallait éliminer, c'est le mythe babélien. C'est-à-dire que toutes les langues sont apparues autour de Babel. Ça ne collait pas que les linguistes qui voulaient faire remonter les langues indo-ariennes à des dizaines de milliers d'années, des proto-langues qui dérivent les unes des autres, un peu sur le schéma de la théorie de l'évolution.
Et donc, les langues primitives soient des langues très très simples.
Alors ça, c'est ce qu'ils imaginent. Mais le problème, c'est que quand on regarde d'un point de vue historique, cette fois, ça ne colle pas avec ce schéma-là. Le schéma de ces linguistes indo-ariens qui adhèrent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce n'est pas innocent non plus, c'est que 86% des archéologues en 1945 avaient la carte du parti nazi, ce qui est colossal, parce qu'il n'y avait que 10% des Allemands qui avaient pris la carte du parti nazi. Jusqu'en 2007, on pensait, c'est ce que je dis dans la revue Archéologia de 2007, jusqu'en 2007, on pensait que les spécialistes qui ont été le plus touchés par le nazisme, c'était les médecins, pour l'eugénisme entre autres, hein, et puis la sélection des races supérieures, les médecins avaient adhéré ils avaient pris la carte du parti à 69%. C'était quand même énorme, énorme. Et on a découvert en 2007 que les archéologues avaient largement battu les médecins, parce qu'ils avaient à 86% pris la carte du parti nazi. Donc on voit bien que c'est un choix idéologique.
Alors là, vous dites aussi, ça m'a beaucoup intéressé, oui. C'est que le budget de l'archéologie...
Ah oui.
A augmenté jusqu'en 43, autrement dit, en pleine guerre. Alors, l'Allemagne a affronté une guerre extrêmement difficile sur deux fronts, etc. Mais malgré tout, là, pour l'archéologie, avait du budget.
Ah oui, énorme, énorme. Et ce qui fait que... donc c'était vraiment un choix idéologique qui servait l'idéologie nazie. Les nazis voulaient promouvoir la supériorité de la race aryenne, donc eux, évidemment, et puis qui permettaient d'éliminer les sous-races. Les races inférieures. Donc la race inférieure, c'est eux qui choisissaient qui était dans la race inférieure, voire de les dominer, voire pire, de les éliminer. Donc en partant...
Vous dites, voire pire. Alors justement, quand on lit le livre de Darwin, on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, c'est la survie du plus apte. Bon, ça, c'est le côté positif. Mais en réalité, la survie du plus apte ne peut se faire que s'il y a élimination du moins apte.
Bien sûr.
Donc la réalité technique qui est derrière le darwinisme, c'est l'élimination des Moissac.
Alors, tout à fait, les gens ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de lien. Alors, c'est vrai que Darwin n'a pas fait ce lien, mais rapidement, par exemple, le philosophe Herbert Spencer, en 1964...
Ah ben, il n'a pas fait ce lien, si, moi, je ne l'ai pas sous la main, mais dans l'origine de l'espèce, il parle bien d'élimination et d'extermination. Mais, des variétés moins...
il parle des espèces animales. Et là où, rapidement, des philosophes anglais, comme Spencer, lui, il a appliqué ce qu'il a appliqué, le darwinisme social. C'est-à-dire qu'il l'a appliqué aussi à l'homme. Il a considéré que l'homme faisait partie...
Mais si vous êtes évolutionniste, l'homme est un animal comme les autres. Donc, c'est normal d'appliquer à l'homme...
Bien sûr.
La vérité de l'homme, c'est l'animal. Hein,
c'est la conclusion logique. Effectivement, si on range les hommes dans les animaux, la théorie de Darwin s'applique à l'homme. Et oui, alors, et là, c'est là où on bascule dans quelque chose qui est vraiment contre la Bible, parce que la Bible dit que l'homme est distinct des animaux. Voilà. Et donc, c'est pas du tout là, c'est la Bible et la théorie de l'évolution, c'est un antagonisme total.
C'est ça, c'est deux visions du monde
complètement
incompatibles.
Voilà. Incompatibles. Voilà. Darwin.
Et malheureusement, un certain nombre de gens imaginent que c'est compatible.
Darwin croyait aussi que c'était compatible. Il croyait que la Bible et sa théorie étaient compatibles. Non, c'est pas possible. C'est où l'homme a été créé, où il est venu par une évolution dont on ne sait pas trop comment. Donc c'est pour ça que c'était une idéologie qui a été développée par les nazis, sauf que les gens ne savent pas que cette préhistoire, du coup, après la guerre, les archéologues n'ont pas été inquiétés, alors que le quart des archéologues étaient rentrés dans la SS. Donc ça montrait vraiment que les archéologues étaient vraiment très impliqués dans le nazisme. Tous les archéologues, parce que même les archéologues français étaient choisis en fonction de leur idéologie. Donc, même dans les académies allemandes où il y avait des gens prestigieux, ils ont été complètement éliminés parce qu'il fallait défendre l'idéologie nazie. On ne pouvait pas avoir un poste académique si on n'adhérait pas à l'idéologie nazie. Donc, la préhistoire a été construite par les archéologues nazis. Sauf que, procès de Nuremberg, certains médecins ont été inquiétés, mais les archéologues n'ont pas du tout été inquiétés. Et ce qui fait qu'ils ont formé les nouveaux archéologues aujourd'hui qui sont tout à fait dans cette mouvance de cette idéologie qui avait été promue par les nazis. Donc, théorie de l'évolution, préhistoire fondée. C'est pour ça que j'ai commencé dans mon livre, les premiers chapitres, pour montrer que s'il n'y a pas de théorie de l'évolution, il n'y a pas de préhistoire. Voilà, c'est pour ça que j'ai montré qu'au début, les deux étaient liés. Si la théorie de l'évolution, si la préhistoire existe, c'est parce qu'il y a une théorie de l'évolution. S'il n'y a pas de théorie de l'évolution, il n'y a pas d'histoire. Enfin, il n'y a plus de préhistoire, je veux dire.
Parce qu'au fond, la préhistoire, de ce point de vue-là, ça se résume à l'existence d'ancêtres de l'homme qui ne sont pas des hommes.
Alors, préhistoriques, en fait, ceux qu'on appelle hommes préhistoriques, ce sont des singes préhistoriques. Effectivement, il y a des fossiles, on a bien des fossiles, mais classer ces fossiles dans des humains, la plupart des fossiles, d'ailleurs, on voit bien quand ils mettent dans les hominidés, ils mettent des fois des crânes. On voit bien déjà que les crânes sont complètement simiesques. Dire que c'est des humains, des ancêtres des humains, c'est pas logique. Parce que bon, les humains, on a vraiment une stature particulière. Et puis deuxième chose, on assimile ça à des races humaines, alors qu'en fait, ce sont des races ou des espèces de singes. Donc ce sont des singes préhistoriques. Alors souvent, par exemple, les gens connaissent Lucie. On leur présente Lucie comme...
notre grand-mère.
Notre grand-mère, oui. Mais c'est complètement aberrant de dire ça, parce que... Ou Toumaï aussi. Toumaï, voilà. Mais peu importe, on va prendre le cas de Lucie, qui est très connue. Lucie, elle a les dimensions d'un chimpanzé. Elle fait un mètre et quelques de haut, comme les chimpanzés. Elle a le crâne d'un chimpanzé, exactement. Quand on compare un crâne d'Australopithèque, un crâne d'un chimpanzé et un crâne humain, ce que j'ai fait dans mon livre, j'ai montré ces crânes. Et puis, dernier point qui je trouvais encore plus marquant, quand on regarde le pied, les chimpanzés ont un pouce au pied, comme beaucoup de singes, alors que les humains, on a un gros orteil, on n'a pas de pouce au pied, contrairement à la main. Et là, Lucie a un pouce au pied, donc à la limite, elle a la dimension d'un chimpanzé, elle a le crâne d'un chimpanzé, elle a le pied d'un chimpanzé. C'est un chimpanzé. On aurait dû l'appeler Chita.
Oui, mais alors ça, c'est justement, c'est ce que d'ailleurs Pierre Abichang, qui était doyen de la faculté de médecine de Montpellier, appelait l'ancestromanie. L'ancestromanie, ça consiste justement à considérer comme ancêtres des êtres qui ne sont pas proches de l'être dont ils sont censés être l'ancêtre.
Oui. C'est complètement différent.
Donc il n'y a aucune... sur le plan de la science, c'est une idée
c'est un non-sens.
Absurde.
C'est absurde. Les chimpanzés existaient, ils existent toujours. Il y avait des homo sapiens, il y a un problème de datation, mais c'était des hommes. Squelette des homo sapiens.
Il y a des hommes fossiles.
Des hommes fossiles, oui. Et comme nous, on compare ces squelettes, on voit que c'est effectivement les chimpanzés, on compare les squelettes et on voit, et ben on voit que les chimpanzés, ils étaient à l'origine et les humains, ils étaient à l'origine. Ils n'ont pas beaucoup changé, en fait. On s'aperçoit même que ils sont presque identiques à leurs ancêtres. Par contre, dire que classer Lucie dans des êtres humains, c'est vraiment contraire à ce qu'on observe.
Alors, vous dites quelque part, la notion de parenté n'a pas de sens en biologie.
Alors, là, parce qu'on parle des fois de cousins, des choses comme ça, mais c'est pas... Alors, effectivement, les gens confondent, alors même Darwin confondait race et espèce. Les espèces ne peuvent pas se croiser. Par contre, les races peuvent se croiser. Alors, pour donner un exemple, les chiens, par exemple, les chiens, il y a 350 races de chiens. C'est l'espèce des chiens. L'ancêtre des chiens, c'est le loup sauvage. Voilà. Donc, voilà. Et les loups ont eux-mêmes 400 races de loups. On peut croiser des races de loups avec des races de chiens. Bon, la différence entre les loups et les chiens, c'est que les loups sont sauvages, alors que les chiens sont domestiqués.
Mais ils ont les mêmes organes.
Mais on peut les croiser, c'est surtout ça qui montre bien.
Oui, c'est l'interfécondité.
L'interfécondité, voilà. Donc on peut croiser tout à fait des chiens entre eux, on peut croiser des loups avec des chiens, puisqu'ils sont dans la même espèce. Par contre, on ne peut pas croiser une variété ou une race de chiens avec une race de chats. Il y a 70 races de chats, par exemple, qui viennent tous d'un ancêtre qui a un nom particulier, mais bon. Donc tous les chats qu'on a aujourd'hui, les 70 races de chiens, de chats, peuvent se croiser entre elles. Les 350 races de chiens, on peut les croiser entre elles, à mesure où il n'y a pas des trop gros écarts. Mais on ne peut pas croiser une race de chiens avec une race de chats. On ne peut pas croiser une race de singes avec une race humaine. C'est deux races différentes.
Enfin, oui, c'est deux espèces différentes. Les évolutionnistes vont vous dire, effectivement, les chats sont des chats, les chiens sont des chiens, mais ils ont un ancêtre commun.
Eh bien non, ce n'est pas possible. Justement, ils n'ont pas un ancêtre commun parce qu'ils sont deux espèces différentes. Les espèces, on peut... Pour qu'ils appartiennent à une espèce, il faut que cette espèce puisse être croisée. Donc les chiens appartiennent à l'espèce des chiens et les chats à l'espèce des chats. C'est deux espèces qu'on ne peut pas croiser. Donc on ne peut pas avoir un ancêtre qui permette de donner deux espèces. Une espèce ne peut pas se diviser en deux espèces. Non, une espèce reste l'espèce. Elle existe au départ et puis après, il y a des variantes, des variations qui donnent des races, effectivement, qui sont des fois extrêmement différentes. Mais alors que les races humaines sont quasiment toutes identiques. Mais voilà, c'est pas... Et même quand Darwin étudie les pinsons, il parle d'espèces alors qu'en fait, ce n'est pas des espèces. D'ailleurs, il ne définit pas ce que c'est qu'une espèce. Il reconnaît que c'est vraiment un problème. Ce sont des races de pinsons, des races de pinsons qui s'adaptent. Il y a des pinsons qui ont des becs plus grands, plus petits, des ailes. Mais c'est des adaptations qu'on voit dans toutes les races. Et voilà. Donc, les gens confondent race et espèce. Les espèces ne peuvent pas changer une autre espèce. Par contre, les races peuvent se modifier, s'adapter, apparaître, disparaître, etc. Donc, c'est complètement différent.
L'ancêtre commun, c'est justement le devoir d'imaginer.
Oui, voilà. Donc, on aboutit
donc,
à alors, ça.
On ferme la page de la préhistoire, cette page mensongère, et on arrive à l'histoire.
Oui.
Quand commence l'histoire?
Alors, voilà. Grosse différence avec les archéologues qui imaginent avec des chronologies de millions d'années, voire plus. Les historiens, eux, ils s'appuient sur les documents, les inscriptions et une chronologie précise. Donc là, c'est vraiment deux choses complètement différentes des archéologues. Pour les historiens, l'histoire commence, la plus ancienne civilisation connue, c'est les Sumériens. On a des inscriptions, alors elles ne sont pas nombreuses, mais on en a quand même. On a une chronologie, même si elle n'est pas précise, elle est approximative, ça commence vers 3200 avant notre ère. Et donc, avant, on n'a rien. On n'a pas d'inscription, on n'a pas de chronologie avant, on n'a rien du tout. On n'a que des fossiles qu'on interprète, les archéologues interprètent. Et en plus, deuxième chose qui ne colle pas avec le schéma des linguistes indo-ariens qui imaginent plein de langues, en fait, quand on observe les inscriptions, alors, les langues, il y a trois langues qui apparaissent. Alors, des langues écrites, parce qu'il y a aussi des langues orales. Les trois langues écrites les plus anciennes, c'est le sumérien, on a des inscriptions qui apparaissent à Uruk. De l'égyptien, l'hiéroglyphe égyptien qui apparaissent à Abydos, en sud d'Égypte, et le proto-élamite qui apparaît à Suse. Trois langues complètement différentes, très structurées dès le départ, qui apparaissent presque toutes en même temps, le sumérien étant certainement la première, et ces trois langues apparaissent à trois endroits différents. Ça ne colle pas avec le schéma des des linguistes indo-ariens
qui veulent la continuité.
Qui mettent un ancêtre de langue, alors les grognements qui deviennent une proto-langue, qui donnent plein de langues. Ce n'est pas du tout ce schéma qu'on observe. Les historiens observent plutôt trois langues écrites et en lisant les noms propres de certains de ces dirigeants, on s'aperçoit qu'il y avait aussi une langue orale parce que certains noms propres qui sont transcrits en sumérien, par exemple, transcrivent des noms qui sont écrits, qui sont acadiens ou hébreux. Donc c'est des langues orales, puisqu'à cette époque-là, on n'a pas d'écrit. Mais visiblement, ces langues existaient, puisque les noms de certains rois sumériens étaient d'origine acadienne, alors que le sumérien n'a rien à voir avec l'acadien, ou hébreu même. Alors, voilà. Donc ça veut dire qu'à l'origine, il y a trois langues écrites qui apparaissent, et deux langues orales, indirectement, par les noms propres, qui apparaissent aussi. Ce n'est pas du tout le schéma des linguistes indo-ariens qui imaginent une proto-langue qui se divise en plein de langues actuelles. Ce n'est pas du tout ce schéma-là. Le schéma qu'on constate, ça correspond au schéma biblique de la tour de Babel qui brutalement fait apparaître plein de langues à différents endroits de la planète.
Alors quand vous dites des langues structurées, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire que des langues qui étaient d'abord écrites, parce qu'on n'a pas de... Ça veut dire des langues qui peuvent exprimer des pensées. Alors c'est souvent des pensées rudimentaires, c'est ce qu'on appelle de l'administration. Ils géraient des temples ou de l'économie, donc on a des petites... On s'appelle ça des étiquettes. Des étiquettes comme aujourd'hui, quand on vend des produits, on doit étiqueter d'où il vient, où il va, à quoi il sert, etc. Mais ça prouve que déjà, il y avait une langue qui existait, parce qu'on a déjà des étiquettes. Alors, principalement, ceux qui utilisaient l'écriture, c'était l'administration pour gérer la gestion des... Quand ils faisaient des recensements de bétail, puisque c'était la richesse de l'Égypte, eh ben, voilà, on avait des étiquettes, puis des fois, qui vont s'allonger avec le temps. Et là, avec le temps, on va avoir vraiment des inscriptions qui vont être complètes, qui vont vraiment être la langue telle qu'on la connaît après. Mais les premières inscriptions, ce sont, des étiquettes, on pourrait dire administratives, pour gérer les temples. Parce que c'était les principaux centres du pouvoir.
Oui, mais c'est là où étaient les scribes.
Et bien sûr, ils travaillaient pour le pouvoir, les scribes travaillaient pour le pouvoir. Le roi a besoin de collecter les richesses, enfin c'est les impôts. Donc les impôts, c'est la première trace de civilisation humaine. C'est lié au pouvoir. Le pouvoir, pour exercer, il a besoin d'argent pour payer ses soldats. Donc voilà, on a besoin d'une administration et donc on a besoin d'inscriptions pour fabriquer tout ça, pour gérer parce que ça fait beaucoup de monde à gérer, donc il faut des inscriptions. Il faut des gens compétents, il faut distribuer le travail. Et voilà, donc les inscriptions sont nécessaires.
Alors, on a donc une histoire qui commence à Sumer, voilà. Le titre bien connu, et on voit que l'évolution continue à partir de préhominiens, avec des grognements, évidemment, ça ne correspond pas au fait observé.
Voilà.
Alors, comment expliquer, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait, à un moment donné, trois langues, et même bien plus de trois langues attestées? Ça laisse entendre qu'il y a eu quelque part une coupure.
Alors, forcément...
Parce que quand vous dites, justement, Adam, ce n'était pas ni acadien, ni sumérien, ni égyptien.
Tout à fait. Alors, en fait, l'histoire, elle commence à Sumer, elle commence après le déluge. Et les sumériens, c'est ce qu'ils disent dans l'épopée de Gilgamesh. La 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh, on nous raconte que Gilgamesh voulait rencontrer Ziusudra, bon, c'est le nom sumérien de Noé, qui a survécu au déluge, dans les mêmes conditions, il a construit une arche, il a laissé des oiseaux, enfin c'est vraiment le récit biblique. Et il dit que ça commence après le déluge. Les premières civilisations sumériennes, dans la liste royale sumérienne, ça commence avec une dynastie sumérienne qui apparaît après le déluge. Donc les sumériens considèrent qu'il y a eu un déluge. Les historiens n'en disent pas plus, parce que normalement, il y a la tour de Babel dans cette affaire, mais ils ne parlent pas de la tour de Babel. Par contre, les Babyloniens, eux, ils en parlent plus tard.
C'est un peu normal.
Bah oui, parce que les Babyloniens, eux, c'est Hammurabi qui va faire de Babylone sa capitale. Donc lui, il va rattacher son règne prestigieux à le premier règne prestigieux, et il relie son règne à celui de Marduk, qui a été investi par les dieux. Marduk, l'historien n'en parle pas. Alors qu'on a des inscriptions de Marduk. On en a des inscriptions. On a aussi des inscriptions qui parlent de Babel. Alors ça, c'est incroyable parce que Babel, l'historien n'en parle pas. Mais on a des inscriptions sumériennes qui parlent de Babel, qui écrivent même Babil ou Babal, le nom hébreu. Et après, on le traduit en sumérien, Kadinira, qui veut dire porte de Dieu. C'est la traduction de l'hébreu, Bab-El, qui veut dire porte de Dieu. Donc c'est vraiment la traduction du nom qu'on trouve dans la Bible en hébreu, Bab-El, porte de Dieu, et ils l'ont traduit. Mais avant de le traduire, les premières inscriptions les plus anciennes, qu'on a du 26e siècle avant notre ère, parlent de Babal et du gouverneur de Babal.
Est-ce que vous avez parlé d'Amourabi?
Oui.
Alors, moi, je connais, enfin, j'ai parlé du code d'Amourabi.
Bien sûr, bah,
et quand on lit le code d'Amourabi, on voit qu'on a affaire à une civilisation pratiquement, enfin, ils sont comme nous. Enfin, ils
oui,
sont,
bah, bien sûr.
L'organisation de la société est confrontée aux mêmes problèmes et aboutit à des solutions différentes. Déjà, limite, il y a le code civil, le code napoléonien, le code d'Amourabi. Alors, bon, évidemment, le code napoléonien est beaucoup plus long que le code d'Amourabi, ce qui n'est pas forcément un progrès. Mais. On voit bien que ça s'adresse au gouvernement d'une société fabriquée des mêmes hommes.
Alors, c'est plus... Alors, bon, on l'appelle code, c'est pas vécu comme un code, on aurait pu dire une liste de jurisprudence. Parce que nous, le mot code a un sens normatif. Pour Amourabi, c'était plutôt un titre consultatif qui faisait une liste de jurisprudence et qui a été utilisée pendant très très longtemps pour régler des cas pratiques. C'est vrai que c'était le but, c'était régler... pratique. Mais ce n'était pas un code moderne comme il y a code Napoléon, etc., qui était normatif. Bon. Mais ça montre bien ce qui est intéressant pour les Babyloniens, c'est qu'eux, ils font référence à ce qui s'est passé à Babylone. Alors que dans les historiens, on ne parle pas de Babylone. La Bible en parle de Babylone. Elle montre que Babylone ou Babel, parce que ce n'est pas Babylone, c'est après, la Bible montre que c'est Nimrod, le premier roi du monde, qui est à Shinéar, c'est-à-dire Sumer, qui construit Babel, Uruk, Ninive, etc. Donc toutes des villes qui sont les plus anciennes au monde. Uruk a été parfaitement fouillé. On a le plus vieux temple au monde, c'est le Temple Blanc, qui est daté de moins 3000. Et donc, la Bible parle de Nimrod. Alors, Nimrod, c'est un surnom, hein, ça veut dire nous rebellerons. Et ça correspond au Marduk babylonien, puisque ça, il a construit les mêmes villes, dont Babylone principalement, et au même moment. Et le récit biblique est tout à fait en accord avec la version babylonienne et la version sumérienne qui parlait que tout ça, ça s'est produit après le déluge. Et c'est ce que dit la Bible aussi. Nimrod apparaît après le déluge. Après Noé, bien sûr. Et donc, Nimrod, qui est un petit-fils de Noé, eh bien, effectivement, va construire cet empire mondial, le premier empire mondial, qui va s'effondrer. Quand la tour de Babel va être construite, Dieu va confondre les langues. Enfin, la langue, parce qu'il n'y en avait qu'une. Et ce que disent même les Babyloniens, il n'y avait qu'une langue avant. Voilà. Et là, apparaît les langues. Et l'empire sumérien, que Nimrod ou Marduk, d'après les Babyloniens, avait construit, disparaît. Il va disparaître pendant 5 siècles, ce qui est bizarre. Les Assyriens ne s'expliquent pas, ils parlent d'expansion uruquéenne. Voilà. Et juste après la disparition de l'empire sumérien, apparaît l'empire égyptien. Les premiers rois, enfin la prédynastie, ce qu'on appelle dynastie zéro, qui apparaît exactement après la disparition de l'empire sumérien. Et Jacques de Morgan, il lui dit bien, mais les premiers rois égyptiens, dynastie 0 et dynastie 1, utilisent les mêmes codes que les Sumériens, les mêmes temples, avec les encoches, les redans, les palais tripartites. Ils ont les mêmes les décorations à l'intérieur, c'est des losanges, ils ont les mêmes coudées, ils ont quasiment, sauf la langue. La seule différence, alors que Jacques Morand dit, mais ça prouve vraiment. Bah, tous ces points communs que les premiers rois égyptiens étaient des Sumériens de langue égyptienne.
Parce que la pyramide de Saqqara, qui est présentée comme la plus ancienne, c'est une pyramide à gradins,
voilà,
exactement comme les ziggourats qu'on voit en Assyrie.
Les premières pyramides, ce sont des ziggourats. Oui. On en a beaucoup en Mésopotamie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les ziggourats, et là, on retrouve... avec le récit biblique, c'est la ziggourate de Babylone, que les assyriologues ne savent. Alors, on connaît les fondateurs de toutes les ziggourates, sauf celle de Babylone. C'est quand même le gag. Parce que...
Oui, parce que c'est le prototype.
C'est le prototype, et c'est la plus imposante. La dimension, la base est un carré de 90 mètres par 90 mètres. C'est une ziggourate gigantesque, qui est comparable à la pyramide à degrés de Djéser, qui est colossale. Donc, ça veut dire que le roi qui a bâti ça était un roi extrêmement puissant. Bon. Les assyriologues n'arrivent pas à savoir qui a construit. Ils disent que c'est un mythe. Mais le mythe, le fondateur, il a bien existé. Parce que et Nabuchodonosor dit qu'il a restauré la tour Les Temenenki, qui veut dire en sumérien, c'est un nom sumérien. Les Babyloniens utilisent le nom sumérien qui veut dire le temple de la fondation du ciel et de la terre. Comme par hasard, c'est ce que dit la tour de Babel. C'était construit pour atteindre le ciel. Ah bon ? Eh ben oui, mais c'est exactement. Et puis, c'est exactement le constructeur. La Bible dit que c'est Nimrod. Les Babyloniens disent que c'est Marduk. C'est exactement la même chose. Et donc, cette tour, est-ce qu'elle existait ? Alors, les archéologues disent que la plus ancienne tour, les plus anciennes ziggourats, puisque tour, c'est un mot qui est moderne, mais le terme exact pour les Assyriens.
Et puis surtout, nous, la tour, c'est quelque chose de un petit peu un cylindre vertical.
Voilà, c'est un cylindre.
Alors que les ziggourats, c'est des jardins. Et justement, là, j'étais hier avec quelqu'un qui a passé pas mal de temps au Mexique. Les temples mexicains sont aussi des temples à gradins comme les ziggourats.
Mais c'est des ziggourats, et des ziggourats particulières, parce que les ziggourats mésopotamiennes, celles qu'on a pu reconstituer, parce que la majorité, elles sont en ruine, mais il y en a quelques-unes qu'on a pu restituer, elles ont un point commun, elles ont toutes quatre étages. Toutes quatre étages. Comme la tour de Babel. Et là, alors, le problème, on n'a pas d'inscription de la tour de Babel, mais on a mieux que les inscriptions. On a des sceaux où on représente une ziggourate à quatre étages. Et dans les livres d'André Parot, qui est un archéologue, alors comme il était pasteur, lui, il dénigrait pas la Bible, loin de là. Au contraire, il montrait que le récit biblique et les découvertes archéologiques étaient tout à fait complémentaires. Et donc là, il a étudié cette fameuse ziggourate, et le plus ancien sceau, qu'on appelle le sceau de Kish, la première dynastie sumérienne, on voit une ziggourate à quatre étages, et on voit des gens qui veulent mettre la petite chapelle au-dessus des quatre étages, la chapelle de Marduk, et elle est datée de 2000. Alors lui, c'est Amiette qui a fait la fouille, hein, lui. Il la date de 2800 avant notre ère. La plus ancienne ziggourate, c'est celle de Ur-Nama, qui est datée de moins 2000. Donc 800 ans avant la plus ancienne ziggourate connue, pour les assyriologues, on en avait une qui existait 800 ans avant. Il y a un problème, là. Si on veut être logique, mais c'est gênant pour les assyriologues, encore plus pour les archéologues qui sont athées, c'est de dire le récit biblique est exact, puisque la Bible parle d'une tour de Babel qui existait depuis le début. Alors ça, c'est très gênant d'admettre ça. Ça
veut dire et puis la dispersion des peuples après.
Et puis c'est lié aussi. La tour de Babel est liée aussi à la dispersion des peuples et à l'apparition des langues. Donc tout ça, ça se tient. La version biblique est extrêmement logique et est en accord avec tous les découvertes que les archéologues ont faites. Sauf que la conclusion logique, comme pour la théorie de l'évolution, on sera obligé d'admettre que l'homme, il est apparu, il est créé, il n'a pas évolué. Là, on est obligé d'admettre que les langues sont apparues. Elles n'ont pas évolué, elles sont apparues d'un seul coup. Alors après, elles vont évoluer comme toutes les langues. Hein. C'est comme les races, elles peuvent s'adapter. Mais elles sont apparues soudainement. Et ces tours de Babel, on a même des restes. On sait même la situer aujourd'hui. Alors c'est des ruines, il reste vraiment des ruines. Hein. Il ne reste que la base. Mais on sait la situer. Nebuchadnezzar, il l'a décrit. On a pu faire des fouilles au début du XXe siècle. Des deux premiers étages. Donc le premier étage, il faisait 33 mètres de haut. Et le deuxième, 17 mètres. Vous voyez un petit peu. C'est ziggourat qui mettait, de mémoire, le volume, c'est il y avait 36 millions de briques
pour faire ça. Oui, c'est gigantesque.
C'est gigantesque, c'est comparable à cette qui a été construite par Djéser, un des plus puissants rois des premières dynasties. Donc ça veut dire que ce roi qui a construit cette ziggourat était extrêmement puissant. Ben oui, c'était le premier empereur, on pourrait dire, le premier empire mondial, qui était l'empire sumérien, que Marduk a érigé, quoi. Voilà, donc tous ces éléments convergent vers une source qui était tout à fait en accord avec la source biblique.
C'est-à-dire que finalement, l'histoire biblique, telle que la décrit la Bible, correspond au fait que l'on observe et au fait archéologique.
Alors, ce qui gêne beaucoup les archéologues, pour continuer dans notre idée, parce que les archéologues, ça ne leur plaît pas, hein, que la Bible ait raison. Alors, ils vont dire que tout ça, c'est un mythe. Chaque fois qu'on parle, même des archéologues que moi je connais, qui savent tout ça, ils parlent du mythe de la tour de Babel. Ils ne veulent pas admettre que la tour de Babel a réellement existé, qu'elle a réellement été construite vers le début du troisième millénaire, etc. Ils ne veulent pas l'admettre, parce que ça correspondrait trop à la Bible. Ils préfèrent ne pas se mettre à dos les archéologues qui disent que tout ça, c'est du mythe, et que le déluge, c'est un mythe. Le déluge n'a jamais existé. Voilà, comme ça, toute cette histoire biblique est fausse. Voilà, donc le déluge, que les Sumériens pourtant mentionnent explicitement, et que le récit qu'ils donnent après avec l'apparition des premières civilisations, ça colle exactement, la tour de Babel, ça, ça colle, même archéologiquement, c'est parfaitement en accord avec ce récit biblique. Alors, s'il y a un déluge, c'est gênant pour les archéologues. Ça veut dire que tout ce qu'ils supposent n'est pas en accord avec... voilà, il y a un problème.
Et puis, il y a vraiment un grand nombre de preuves du déluge. Mais nous allons faire une petite pause musicale avant d'en venir là.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Bonjour chers auditeurs, ou plutôt rebonjour. Je rappelle ceux qui ont pris les choses en route que nous écoutons aujourd'hui l'émission Lumière de l'Espérance, dirigée par Dominique Tassot, avec comme invité M. Gérard Gertoux, assyriologue, auteur du livre Le mensonge de la préhistoire, sous-titré Imposture chronologique, il y a eu un premier homme. Et donc le sujet de cette émission, c'est la préhistoire à l'épreuve des faits et du bon sens. Alors nous avons vu dans la première partie de cette émission, alors je rappelle que ceux qui veulent poser des questions, c'est une émission en direct, hein, peuvent le faire en envoyant un courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Et nous avons parlé des hommes préhistoriques, enfin évidemment, dans lesquels il y a des singes préhistoriques et quand même quelques fossiles humains. Nous avons parlé de la tour de Babel, de l'existence des langues écrites dès les premiers temps de l'histoire connue et des langues élaborées. Et nous avons vu donc qu'il y a eu nécessairement un déluge, c'est-à-dire que l'histoire biblique telle qu'elle est donnée, avec le déluge, la tour de Babel, correspond aux faits archéologiques observés. Mais ce déluge, on en a aussi des preuves d'une autre nature que les récits tels que la Bible ou le récit de Gilgamesh.
Voilà. Alors effectivement, les preuves historiques, les archéologues n'en veulent pas, parce que pour eux, tout ça, c'est transformé, c'est très ancien, c'est des mythes qui ont été transformés. Bon, pour eux, les archéologues n'en veulent pas. Alors, on va prendre des preuves archéologiques, parce que les archéologues ne jurent que par l'archéologie. Alors, d'accord. Alors, il y a trois preuves. La première preuve, c'est que les gens, souvent, dans les montagnes, ils voient des strates. On voit des strates qui sont impressionnantes, différents niveaux de pierre, différentes couleurs, et c'est interprété comme des strates marines. Alors, les archéologues reconnaissent qu'il y a des millions d'années, il y avait un gigantesque océan qu'on appelle l'océan Tétis, ou Néo-Tétis, qui couvrait toute la planète. Et effectivement, il y avait des fonds marins, et puis quand cet océan a disparu, ben, ces fonds marins se sont trouvés élevés. Il y a des montagnes qui sont apparues. Et puis les fonds marins, ces pauvres marins, se sont trouvés des fois sur des montagnes. Voilà, les montagnes, effectivement, étaient sous l'eau à cette époque-là. Donc on parle de strates marines. Et comme, alors c'est un point un peu technique, mais je veux seulement dans le livre, c'est traité en détail. Ces strates marines ne sont pas des strates marines, c'est ce que Guiberto a montré dans ses travaux de sédimentologie. Ce sont des strates alluviales. Elles sont complètement différentes. Les strates alluviales ont une formation qui est complètement différente des strates marines. Les strates marines, c'est tout simplement les dépôts de sédiments qui se font sur des très longues périodes. Et effectivement, on a des strates les plus anciennes qui sont au fond et les strates les plus récentes qui sont au-dessus. Ça, c'est les strates marines qui sont observées, qui existent bien, qu'on peut trouver même dans des lacs, etc. Mais ces strates marines sont très uniformes.
Elles sont horizontales.
Elles sont horizontales. Voilà. Alors que les strates qu'on voit, ce sont des strates qui sont assez bouleversées et avec des périodes qui sont, comment dire, beaucoup plus petites que les strates marines. Donc, en fait, c'est les strates alluviales qui se sont formées par des coulées gigantesques de boue. Il y a des exemples dans le livre. Même Guiberto a fait des expériences pour montrer qu'on pouvait, même à petite échelle, on voit parfaitement la reconstitution de ces strates.
Alors, je rappelle à propos de Guiberto que c'était le vice-président du CEP et que vous pourrez trouver sur le site du CEP, le-cep.org, un certain nombre d'articles signés par lui et qui décrivent ses travaux.
Alors, moi, dans le livre, je les ai cités parce que j'ai beaucoup apprécié. Je ne savais pas. Alors ça, c'est très précieux, mais c'est très technique. Alors des choses qui sont moins techniques et plus faciles d'accès pour le grand public. Le premier point que j'ai traité, ce sont ce qu'on appelle les blocs erratiques. Les blocs erratiques, ce sont des rochers qui sont assez énormes, qui peuvent faire des dizaines, voire des centaines, voire pour certains des milliers de tonnes, qui se trouvent un peu partout sur la planète. Et l'explication qu'on trouve habituellement, ce sont des rochers qui ont été déplacés par les anciens glaciers qui couvraient la planète. Donc, il y avait des gigantesques glaciers qui ont fondu et qui ont laissé en fondant, et ils ont laissé ces rochers qu'ils avaient charriés. Alors, j'ai pris un exemple que je connais bien, parce que j'étais à Lyon à l'époque, et j'ai vu qu'il y a eu des études de fait sur les blocs erratiques, y compris ce qu'on appelle à Lyon le bloc qu'on appelle le gros caillou de la Croix-Rousse, qui se retrouve sur le sommet de la Croix-Rousse à 300 mètres de hauteur par rapport à Lyon. Et ce bloc erratique, on a fait des analyses minéralogiques, et on sait qu'il vient de la vallée de la Maurienne, presque 150 km de Lyon.
Alors, il a quelle taille ?
Alors, il a une grosse taille, il fait 4 mètres, je crois, et il fait 24 tonnes. Donc, c'est déjà un bon rocher.
Alors, il n'aurait pas pu être transporté par un courant d'eau.
Courant d'eau, ce n'est pas possible. Donc là, effectivement, l'explication du glacier peut se tenir. D'ailleurs, c'est l'explication qu'on trouve dans une station de métro à Lyon, la station de Bourg. Moi, je l'ai visitée. Ici, à 30 000 ans, se trouvait un glacier de 300 mètres de haut. Ben oui, parce que la Croix-Rousse,
il a fallu le mettre.
Donc ça veut dire que Lyon se trouvait sous 300 mètres de glace. Bon, c'est un sacré glacier, d'accord. Bon, ok, pourquoi pas. Mais là où ça cloche, c'est qu'il y a des études de bloc erratique. Ils ont été étudiés dans une... L'étude, je l'ai citée dans mon livre. Tous ces blocs erratiques de la région de Rhône-Alpes ont été répertoriés et on sait d'où ils viennent avec les examens minéralogiques du rocher. On sait dans quelle partie de la montagne il provient. Bon, il y en a des centaines. Le problème, c'est que tous ces glaciers, au moment quand ils fondent, ils laissent ce qu'on appelle des moraines. C'est des petites roches.
Voilà. Des bordures.
Des bordures, bordures du rocher. Donc, les glaciers qui sont venus le plus proche de Lyon sont venus à 23 km de Lyon. Alors, il y a un problème de logique. Si les glaciers, quel que soit, on ne va pas parler de la date, mais peu importe, si les glaciers qui sont venus le plus proche de Lyon sont venus à 23 km, il n'y a pas eu de glacier à Lyon. Et donc, ce fameux glacier gigantesque qui couvrait Lyon de 300 mètres de glace n'a pas existé. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui ont étudié sous ces blocs erratiques? Les blocs erratiques, le gros caillou, il a été éliminé de l'étude.
Parce que c'est un bloc. Oui, c'est les façons simples de, voilà, de régler le problème.
Régler le problème. Eh oui.
L'imagination n'avait pas le pouvoir.
Et voilà, tout à fait. Donc vous voyez un petit peu le problème. C'est, voilà, c'est pas logique. Ben, moi, je trouve que la seule explication maintenant logique, eh ben, c'est le déluge. Parce que les masses d'eau qui ont été en mouvement étaient colossales. Donc les masses d'eau, il n'y a qu'à avoir un tsunami. Un tsunami peut très bien déplacer des immeubles sans problème. Hein. Alors qu'un tsunami, c'est petit par rapport à des masses d'eau qui ont été lors du déluge. On peut imaginer que c'était des milliers de tonnes d'eau qui ont bougé. Et donc dans ce cas-là, c'est... D'ailleurs, il y a eu des exemples de coulées de boue suite à des éruptions volcaniques. Il y a des coulées de boue qui ont charrié des rochers. Enfin, c'est incroyable la force que ça peut avoir. Donc l'explication... Les blocs erratiques, et certains, moi j'ai vu dans certains, en États-Unis, il y a des blocs qui ont fait des centaines de kilomètres et qui des milliers de tonnes. Des glaciers, et puis c'est des glaciers qui couvraient toute la planète. Donc de nouveau, on a un problème de logique. Et deuxième chose, pour le gros caillou de Lyon qui a été très bien étudié, on ne peut pas expliquer parce qu'il n'y a pas eu de glacier à Lyon. Il n'y en a jamais eu. Donc le glacier il y a 30 000 ans, non, il n'a jamais existé. Donc on affirme des choses qui sont fausses.
C'est-à-dire qu'on a on retombe sur le problème du catastrophisme,
oui.
Qui était une explication normale pour les géologues jusqu'au XVIIIe siècle, et qui, à partir du XIXe siècle, a été plus ou moins marginalisée, alors que c'est la meilleure ou la seule explication pour un certain nombre de phénomènes.
Et on retombe sur le problème de l'idéologie de la théorie de l'évolution qui veut absolument pas de l'explication biblique. Donc tout ce qu'on trouve... on le fait rentrer au forceps dans l'idéologie de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, il y a des millions d'années, milliards d'années, les choses ont changé, évolué, etc. Bon. On retombe dans cet esprit idéologique que les archéologues ont vraiment bien assimilé, les linguistes aussi d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'il y a un antagonisme, moi je l'ai vu quand j'ai travaillé avec des égyptologues, ils sont vraiment, quand ils ont appris que je citais la Bible, enfin je ne m'en cache pas, hein, j'ai tout de suite été traité de fondamentaliste. Voilà, j'étais un fondamentaliste, donc ça veut dire quelqu'un, un hérétique, quoi, un scientifique hérétique. Donc, dans le milieu des égyptologues et des archéologues, vous ne trouverez pas de gens qui défendent la Bible. Alors, ceux qui le font, moi j'ai un ami qui était l'ami généticien, là, qui défendait le dessin intelligent, il a perdu sa place. Parce qu'il a fait des articles favorables au dessin. Alors, aux États-Unis, il y a quand même des généticiens qui ont publié des articles à comité de lecture, j'en ai cité là dans... voilà, mais il y a très peu, c'est très difficile. Hein. Souvent, ils sont très mal voir. Les peu qui, et pourtant, c'est des professeurs, des gens qui sont reconnus au niveau académique. Mais comme ils défendent un point de vue qui n'est pas dans la doxa, ils ont des très gros problèmes. On les qualifie de créationnistes et on ne veut pas débattre avec eux. Il y a un refus du débat même. Ceux qu'on appelle créationnistes réclament le débat pour montrer les preuves. Mais les évolutionnistes n'en veulent pas. Ils considèrent que c'est des créationnistes fanatiques, des obscurantistes. D'ailleurs, Pic a fait un livre, Lucie et l'obscurantisme. Pour lui, les gens qui croient à la Bible, ce sont des obscurantistes. Donc on voit vraiment l'idéologie qui est derrière. Ces gens-là sont vraiment allergiques au récit biblique, parce que pour eux, ça voudrait dire qu'il y a un Dieu créateur. Et eux, ils veulent pas d'un dieu créateur, ils veulent d'un hasard créateur. Voilà.
En fait, de cette façon, c'est eux qui ont des préjugés, qui faussent leur démarche scientifique.
Ils refusent le débat. Ils accusent, ce qui est quand même paradoxal, ils accusent les créationnistes, parce qu'ils les qualifient comme ça. On a beau dire que je préfère te qualifier de dessin intelligent. Alors, ce qui est le gag, c'est qu'ils accusent ceux qui croient au dessin intelligent d'être inintelligents. C'est quand même assez comique de faire ce reproche.
Mais c'est l'argument ad hominem. Quand on n'a pas d'argument factuel, on s'attaque aux personnes.
Enfin, voilà.
C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est anormal, mais c'est...
Mais il y a un refus du débat. Les gens qui font, les professeurs qui défendent le dessin intelligent, font paraître leurs articles avec beaucoup de difficultés, mais certains y arrivent, dans des revues comme l'architecture. Et donc, ils aimeraient avoir un débat, mais les autres refusent le débat. On les critique, voilà, systématiquement, ils sont critiqués. Alors, après les blocs erratiques, le deuxième élément que j'ai utilisé dans mon livre, ce sont, qui étaient connus, mais moi, j'ai voulu montrer... uniquement des revues et comités de lecture pour éviter de me faire critiquer, de me faire appeler créationniste, obscurantiste, enfin, etc., tous les colibets qu'on met sur les gens qui croient à la Bible. Alors, j'ai montré que les fossiles sur les montagnes, c'est connu depuis longtemps. Alors, j'en ai étudié un particulièrement parce qu'il a été étudié dans une revue, c'est ce qu'on appelle la dalle aux ammonites à Digne-les-Bains. C'est une dalle remarquable puisqu'il y a 1500 ammonites fossilisés sur une petite montagne de 630 mètres. Donc là, c'est intéressant parce que ces ammonites étaient au fond de la mer. Bon. Elles se retrouvent sur une montagne. Donc comment expliquer ça? Ça veut dire que la montagne était sous l'eau. Ben, forcément, là, les géosciences sont obligés d'admettre que... Alors, ils l'admettent. Il y avait 10 millions d'années. Bon, d'accord, on va admettre ça. Mais il y a un problème, il y a un deuxième problème qui est plus gênant encore pour eux, c'est que si ces fossiles, qui sont parfaitement conservés, ont dû être conservés sous une masse d'eau énorme. Parce que si la masse d'eau n'était pas suffisante, enfin s'ils étaient sous l'eau, ben, ils seraient décomposés. Voilà, il n'y aurait pas eu de fossilisation. Et on calcule la masse d'eau qu'il faut pour qu'ils soient fossilisés. Voilà, assez rapidement, quelques mois. Voilà. Et on a calculé que si la masse d'eau était trop importante, les réactions chimiques avec les carbonats, etc., ne se font plus. Et ils ont calculé la masse d'eau qu'il fallait...
Pour qu'il y ait fossilisation.
Pour qu'il y ait fossilisation. Et ils trouvent entre 3000 et 5000 mètres d'eau. Ah bon? Donc, cette montagne à Digne-les-Bains se trouverait sous au moins 3000 mètres d'eau. Ben, c'est colossal. Et cette eau, bon, elle venait d'où? Parce que si on suppose qu'elle a été créée par combustion d'hydrogène et d'eau, ben, si c'était ça, il ne peut pas avoir de vie. C'est incompatible avec la vie. Bon, puis cette eau, alors que la Bible dit que cette eau venait, effectivement, elle était au-dessus de la terre, qu'elle s'est effondrée, etc. La Bible donne un scénario tout à fait crédible et qui est en accord avec ce qu'on voit, effectivement, tous ces fossiles, enfin, sont apparus à ce moment-là, ils sont apparus au moment du déluge. Toutes ces formes de vie ont été noyées sous des kilomètres d'eau, c'est vrai, et ces kilomètres d'eau ont exercé une pression colossale. Ce qui a fait émerger les montagnes, hein, d'ailleurs, ce déplacement, cette eau finit par se retrouver dans les fosses marines, etc. Et puis les montagnes ont émergé, c'est ce que dit le psaume 104, les montagnes sont émergées, et puis l'eau s'est affaissée. Et donc, voilà. Et dans le livre, je ne l'ai pas cité, c'est un ami qui m'a dit, mais tu sais, j'ai fait une recherche avec ChatGPT, j'ai vu qu'il y avait des fossiles de baleines sur une montagne.
C'est très intéressant, parce que qu'il y ait des coquillages dans les Alpes, c'était connu depuis très longtemps. Il y a même, ça irritait Voltaire à ce point qu'il a mis un article coquille dans son dictionnaire philosophique pour expliquer qu'il n'y avait certainement pas de coquillages dans les Alpes parce qu'il avait envoyé des journaliers pour fouiller pendant des jours et qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais évidemment, quand on paye des gens pour fouiller et ne pas trouver, ils ne trouvent pas.
Bien sûr.
Mais alors, les baleines sur des montagnes, là, ça pose problème.
J'ai pas mis dans mon livre, hein, parce que dans mon livre, j'ai mis que les ammonites, là, sur Digne-les-Bains, sur dalle aux ammonites, sur cette petite montagne 630 mètres. Alors, c'est dans un article qui est paru en 2002, Flynn Novasek, je pourrais vous laisser la petite référence si ça vous intéresse, qui s'est trouvé dans le sud du Chili, à Pampa Castillo, près de Puerto Guadal. Et là, on a trouvé des fossiles de baleines parmi d'autres mammifères, mais il y a des fossiles de baleines. Alors, les fossiles de baleines, ça se trouve que dans la mer, a priori. Et là, se retrouvent ces fossiles sur une montagne de 1349 mètres. Alors là, ce n'est pas une petite montagne. Donc, comment expliquer que des fossiles de baleines se retrouvent sur une montagne? Et en plus, donc, elles étaient sous au moins 1349 mètres d'eau avant d'émerger, ce qui est colossal, mais certainement plus. Et puis cette pression d'eau a dû être colossale pour fossiliser rapidement les baleines, parce que sinon, comme tout être vivant...
Oui, ce serait décomposé.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une fossilisation assez rapide sous une masse d'eau énorme, et résultat, ces fossiles de baleines se retrouvent sur une montagne de 1349 mètres. Bon, voilà. Donc comment expliquer qu'il y avait un océan Tétis? S'il y avait un océan Tétis, ces baleines-là, elles seraient décomposées, c'est tout.
Oui, surtout que l'argument classique des évolutionnistes, c'est de dire, oui, bon, c'est des petites choses, des petites modifications, etc. Mais ça a duré très, très, très longtemps. Ouais. Seulement là, à cette échelle-là, le temps ne peut rien faire.
Voilà. Et puis, alors, des fossiles de baleines, moi j'étais sidéré, et j'ai vérifié. Hein. Les gens, s'ils veulent faire une recherche, avec ChatGPT, ils regardent fossiles de baleines sur les montagnes, ils trouvent.
Mais alors, justement, à propos de datation, justement, vous parlez dans votre livre des méthodes de datation, et vous remarquez que on peut faire une étude méthodique des manques de fiabilité ou des risques d'erreurs possibles dans les datations, en particulier par les radioéléments.
Alors, c'est le problème des datations. Alors, comme c'est technique, je vais seulement donner le principe. Les gens connaissent les dates qu'on appelle datation carbone 14. Alors, on peut mesurer, d'après les spécialistes, les radiocarbonistes, on mesure moins 5000, moins 10000, moins 20000, ça ne les gêne pas. Bon. Le problème de ces datations, moi, j'ai seulement montré qu'elles sont soi-disant calibrées avec ce qu'on appelle la dendrochronologie, c'est-à-dire les cernes des arbres. Bon. Alors, ça marche bien jusqu'à moins 2000, ça marche bien. Et avant, ce que je montre, c'est qu'à partir de moins 2500, on a des dates qui sont extrêmement différentes des dates qu'on trouve par l'astronomie, parce que dans la chronologie des dynasties égyptiennes, on peut dater certains règnes par des phénomènes astronomiques qui sont signalés dans les inscriptions égyptiennes. Donc on peut dater précisément, l'astronomie c'est au jour près l'astronomie, hein, c'est pas 10 plus ou moins 20, c'est au jour près. Et donc on peut remonter jusqu'au règne de Djer, le plus ancien pharaon, qui a régné, et il signale en 23e année de son règne, il y a eu une apparition de Sirius, qu'ils observaient beaucoup Sirius, les Égyptiens, et on peut dater ça, le mémoire, de 16 juillet, moins de 1766. Voilà. Et donc on peut voir, d'après l'astronomie, quel est le règne de Djer, et on peut regarder par le carbone 14 quel est le règne de Djer. Voilà. Donc on a deux datations, datation carbone 14 calibrée, qui est soi-disant précise, et datation par l'astronomie. Et alors là, c'est une datation qu'on appelle absolue. Là, on a presque 300 ans d'écart. Donc, ce qui montre que ça, la datation soi-disant calibrée, dans ces eaux-là, elle n'est plus calibrée. Alors, pourquoi elle n'est plus calibrée? Alors, je vais être bref sur... C'est parce que les gens s'imaginent... Les radiocarbonistes considèrent que le carbone 14 a toujours existé. Bon, ils supposent, ça, c'est un acte de foi. Parce que s'il y avait un déluge, avant le déluge, il y avait une voûte d'eau. Et il faut savoir que s'il y a 46 mm d'eau, ça arrête 99% des rayonnements. La preuve, les piscines nucléaires, on met les choses.
Effectivement, oui.
Ça arrête vraiment, c'est un arrêt complet, donc il n'y a pas de neutrons, donc il n'y a pas de carbone.
Donc il n'y a pas de carbone 14.
Il n'y a pas de carbone 14. Donc avant le déluge, il ne peut pas avoir de carbone 14. Donc si on suppose qu'il y avait du carbone 14 avant le déluge, déjà, il y a un problème, c'est que s'il y avait cette voûte d'eau au-dessus de la Terre, il suffit de 46 mm d'eau. Ça suffit. Peut-être qu'il y en avait plus, visiblement, il y en avait plus. Mais même ça, ça suffit. Donc ça veut dire que déjà, cette hypothèse que les radiocarbonistes croient, parce que voilà, ça convient à leur mesure, ils ne veulent pas remettre en cause. Bon, deuxième chose, c'est que le carbone 14, on le mesure en fonction de sa calibration. Mais les arbres, encore faut-il qu'ils existent. Or, les plus vieux arbres qu'on a, c'est les pins Brindselkone. Le plus vieux, c'est 4850 ans de mémoire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'arbres avant 4000, moins 4000, de 4000 ans. On n'a pas d'arbres depuis de 4000 ans. Ça veut dire qu'avant 2000, et encore même à moins 2000, avant, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la calibration. On l'a fait par un autre système. On met ce qu'on appelle des souches d'arbres. Des souches d'arbres qui sont comme d'une sorte de, vous savez, quand vous coupez un arbre, vous voyez, il y a des cernes. Et ça fait une sorte de, on pourrait dire une sorte de code-barre. Voilà, il y a une sorte de code-barre. Et on met ces souches bout à bout pour reconstituer jusqu'à, on remonte dans le temps. Le problème, c'est quand on arrive dans ces zones-là, Comme il n'y avait pas d'arbres...
Il n'y a plus rien à mettre.
Eh bien, on va prendre des souches d'arbres. Finalement, on va croire que ça...
Pourquoi
on
les met là ? Que ça continue. Ah oui, on extrapole.
On extrapole. Et pourquoi on les met là ? C'est parce qu'on va se servir du carbone 14 pour savoir où c'est qu'on les met. Mais donc, le carbone 14 s'auto-calibre. Parce qu'en fait, la souche d'arbre, si on la calibrait vraiment déjà correctement celle d'avant, on verrait qu'elles ne sont pas dans ces zones-là. Donc, ça veut dire qu'on met bout à bout des souches d'arbres qui sont apparues bien après moins 2000.
Bon, toutes les méthodes scientifiques de datation reposent forcément sur des hypothèses.
Voilà.
On ne peut pas transformer une mesure chimique ou une mesure chronologique banale en date de calendrier sans faire des hypothèses. Et le problème, c'est que justement, il faut pouvoir étalonner les hypothèses et c'est pas toujours possible.
Alors moi, ce que j'ai étalonné, justement, c'est pour éviter de tomber des choses très techniques, c'est seulement montrer qu'on pouvait étalonner entre moins 2000 et moins 3000 pour les dynasties égyptiennes. On peut comparer les dates carbone 14 et les dates astronomiques et on voit que l'écart devient exponentiel dès qu'on arrive dans la zone de moins 2500. Là, ça devient exponentiel. Donc ça montre qu'il y a un problème. Bon, je n'ai pas été plus loin, mais... Et puis je montre aussi que les calibrations, elles ont changé de 150 ans entre 2013 et 2019. Donc, en fait, quand ils disent date calibrée, c'est absolu, c'est faux, parce que même les calibrations, ils les revoient sans arrêt. Donc elles changent sans arrêt, calibration. Donc quand on dit date carbone 14, on devrait dire d'après quelle courbe de calibration, de quelle année, parce que ça change.
Oui, mais ça ne peut pas être des donc, datations absolues. D'ailleurs, c'est la même chose pour les autres radioéléments.
Oui, bah c'est encore pire les autres. C'est encore pire les autres. Mais carbone 14, les gens connaissent bien, parce qu'ils servent, ça sert souvent à mesurer les choses qui sont proches de nous. Bah, ça ne marche pas. Carbone 14, jusqu'à moins 2000, ça marche bien. Moins 2500, ça commence à être assez fantaisiste. On a des écarts 300 ans. Et avant 3000, là, on est comment en parlant de décor. Là, on a des milliers d'années d'écart. Ça ne marche plus du tout.
Parce que j'ai connu une chimiste belge qui avait dépouillé la totalité de la revue Radiocarbone sur des années, et il y avait un nombre de datations aberrantes absolument considérable.
Alors, les datations aberrantes, ce qui est gênant, c'est qu'on les voit dans les revues et communautés de lecture, que je cite, mais elles ne paraissent pas dans les autres revues de vulgarisation. Parce que ça devrait inquiéter si on a des points, tous les points quasiment sont aberrants et qu'on garde que ceux qui nous conviennent, c'est pas un choix scientifique. Un choix scientifique, c'est de dire on a un bruit de fond. Voilà, c'est ce qu'on a. Des fois, on observe, il y a des mesures, on n'obtient pas vraiment ce qu'on veut, on obtient un bruit de fond. Et là où c'est pas honnête, c'est après, on va faire une extrapolation avec des points qui nous conviennent. On va retenir que les points qui correspondent à la courbe auquel on veut croire. Et donc, quand il y a un bruit de fond, ça veut dire que la mesure ne peut pas se faire. Voilà.
L'imposture, c'est de parler de datation absolue.
Voilà.
Il y a des méthodes de datation, chaque méthode a ses limites, chaque méthode a ses datations aberrantes, il faut les prendre avec un peu de recul, et c'est comme en information politique, il faut des recouvrements, on ne peut pas partir sur une datation si on n'a pas des confirmations par ailleurs. Mais si on prend un peu de recul par rapport à votre livre, au fond... Le mensonge de la préhistoire, c'est surtout le fait de vouloir, a priori et par préjugé, écarter l'histoire biblique, qui, elle, correspond aux faits. Maintenant, histoire biblique, donc chronologie biblique.
Voilà. Hein,
et je rappelle que quelqu'un comme Newton, par exemple, était passionné par la chronologie biblique. Il a écrit lui-même une chronologie des anciens royaumes.
Oui, oui.
Il faut bien voir que le basculement en défaveur de la Bible, c'est quelque chose de récent dans l'histoire de la science occidentale, parce que ça s'est fait au 19e siècle, mais avant, les fondateurs de la science européenne étaient convaincus de l'exactitude de la vision biblique du monde. Alors, le problème est suivant, c'est... de quelle Bible parle-t-on ?
Ben oui. Et là, Isaac Newton, il savait que le sujet était sulfureux, il avait demandé à ses amis de ne publier ses recherches qu'après sa mort. Il n'y a pas eu de chance, enfin, malchance, des amis français l'ont publié en 1725, et là, il est obligé de faire un petit pan, enfin, un petit article pour dire qu'il désapprouvait complètement cet article, c'était des brouillons, que c'était des essais, etc. Parce qu'il craignait l'excommunication.
Bah, il était pas... bah, ça me paraît étonnant, parce que comme il n'était pas catholique...
Bah oui, mais il craignait, l'Église étant puissante, il était à la Royal Society, et il pouvait même il savait qu'il pouvait avoir des ennuis, hein, si on commence à mettre en cause des choses bibliques. Mais il était à la Royal Society, il ne pouvait pas se permettre de faire... Il n'était pas complètement protégé, il était obligé quand même de regarder... il savait que c'était un sujet qui pouvait lui causer des ennuis, donc il a demandé ce qu'elle soit publiée après sa mort. Voilà. Bon, mais il était pas catholique, donc il craignait pas des catholiques.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai lu cette chronologie dans son royaume, c'est l'intérêt de Newton pour le, par exemple, pour le temple de Jérusalem, pour les dimensions du temple, pour son intérêt pour reconstituer quelle était vraiment la longueur de la coudée royale. Oui. Et il retombe justement sur la coudée royale égyptienne de 53 centimètres, qui est justement à la, est très importante, parce que si on dans la Bible on donne la circonférence des colonnes du temple de Jérusalem, et si on prend comme base comme référence cette coudée royale, à ce moment-là on s'aperçoit que le rayon des colonnes du temple était exactement de 1 mètre.
Oui, alors pour aller dans votre sens, c'est ce que Jacques de Morgan fait remarquer, la coudée égyptienne, coudée royale égyptienne, parce qu'il y avait coudée ordinaire, mais coudée royale, est la même que la coudée sumérienne. Alors c'est coïncidence aussi encore trop
large.
Comme par hasard, les Égyptiens ont choisi la même coudée que les Sumériens. Bon. Alors pour les problèmes d'écologie, par contre, Isaac Newton, ce qu'il ne savait pas, c'est que lui a pris comme référence le texte hébreu, qui avait été traduit, avec Jérôme, qu'on pensait le meilleur que le texte de Septante. Et là, ce que ne savait pas Isaac Newton, qui était un scientifique remarquable, hein, et puis quelqu'un qui était croyant, qui avait une confiance dans la Bible, qui la défendait, donc c'était remarquable. Par contre, ce qu'il ne savait pas, c'est un problème qui, moi aussi, au départ, ça m'a un petit peu surpris, c'est que la chronologie, ce qu'on appelle le texte hébreu d'aujourd'hui, qu'on appelle le texte massorétique, est différente de la chronologie biblique que les premiers chrétiens avaient. Alors ça, c'est bizarre, parce que les premiers chrétiens n'utilisaient pas... Alors, on parle du Pentateuque, hein, surtout. Quand on dit Septante, c'est le Pentateuque, principalement. Et ils utilisaient la Septante, au 1er siècle, et dans le Pentateuque qui a été traduit par les Juifs d'Alexandrie, vers moins 280, on a une chronologie qui est différente du texte d'aujourd'hui, du texte massorétique. Et assez différente. Il y a des décalages de 100 ans sur les patriarches. Voilà, c'est quand même bizarre. Donc on attribue souvent cette modification aux Juifs d'Alexandrie. Alors ça, c'est pas logique, parce que les Juifs d'Alexandrie, tous les Juifs jusqu'au 1er siècle disaient que la traduction grecque était quasiment mot par mot, enfin c'est un peu exagéré, mais qui était vraiment très bien, littéral, ce qui est quand même assez vrai. Là.
C'est forcément la Septante d'Alexandrie qui est le texte le plus ancien.
Alors c'est pas parce qu'il est plus ancien...
écrit.
C'est pas qu'il... Mais il a été traduit du texte hébreu de l'époque, et s'ils avaient mal traduit... S'ils avaient modifié...
Ben, ça serait vu.
Il y en a qui auraient tiqué, quand même. Oui. Alors, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que les meilleurs, ce qu'on appelle les chronographes, parce que les Juifs étaient intéressés par la chronologie, hein, le premier chronographe, c'est Démétrius d'Alexandrie, qui fait une chronologie, qui reconstitue une chronologie, parce que la Bible donne seulement des durées. Hein, donc, il l'a mis bout à bout pour avoir une chronologie, et cette chronologie est la même que celle qu'on trouve dans le texte de la Septante. Et le dernier point qui est intéressant, c'est d'ailleurs... Étienne Naudet a fait un livre, Le Pentateuque de Flavius Joseph. Il montre que Flavius Joseph, qui connaissait l'hébreu, et donc utilise un texte hébreu qui donne la même chronologie que la Septante.
Alors pour les auditeurs, le Flavius Joseph, c'est quelqu'un du 1er siècle après Jésus-Christ, qui était un hébreu savant, qui a effectivement fait en particulier l'histoire des Juifs, etc., mais qui s'était rallié à Rome et qui a donc observé la chute de Massada et Jérusalem du côté romain. Oui. Bon. Mais il n'empêche que ça, il est, en tant que source du 1er siècle, c'est une source extrêmement, absolument irremplaçable. Ah, ben, et donc le fait que lui aussi s'appuie sur la chronologie de la Septante, à mon sens, c'est un argument... très, 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 très fort.
Et en plus, il sait très bien qu'il s'adresse aussi à ses contemporains, qu'il le considère comme un traître, et que s'il écrit des choses fausses, il se fait massacrer, entre guillemets. Donc, il sait qu'il est perçu comme un traître, hein, puisqu'il a pris parti pour Rome. Et il écrit pour se défendre des choses qui vont être lues et critiquées, il le sait. D'ailleurs, après, il va écrire un autre livre pour se défendre encore des critiques qu'on va lui faire. Donc, s'il écrivait, parce qu'il sait qu'on peut vérifier ce qu'il raconte, parce que les Juifs ont quand même l'accès hein, au texte à la fin du 1er siècle. Ils ont encore accès. Et donc, il écrit, et dans le Pentateuque de Fait Joseph, Étienne Naudet compare la chronologie de la Septante du Pentateuque samaritain, parce qu'il y avait aussi le Pentateuque samaritain, qui a la même différence qu'avec le texte massorétique. Alors, les Samaritains, ils n'avaient aucun lien avec les chrétiens ni avec les juifs, hein, parce qu'ils étaient séparés.
Et donc, au contraire, oui, a priori, ils étaient forcément fidèles à leur tradition.
Voilà, les Samaritains, ils se sont démarqués. D'ailleurs, il y avait une animosité entre les Juifs et les Samaritains, comme on le sait. Et donc, on compare la Septante, le Pentateuque samaritain et le Pentateuque de Flavius Joseph, et on voit qu'il est le même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Pentateuque que les premiers chrétiens utilisaient, c'était celui de la Septante. Ils citent quasiment toujours la Septante. Les chrétiens n'avaient pas accès au texte hébreu. Enfin, très peu avaient accès. La majorité des chrétiens, surtout les chrétiens gentils, eux, c'était le texte grec qu'ils connaissaient. Donc voilà, ils avaient... et ils citent... Luc, par exemple, Luc cite la généalogie de la Septante. Luc 3,36, on voit Cainan qui est dans la Septante, qui est dans le texte du Nouveau Testament, qui est un texte, une édition critique. On ne peut pas dire que Luc s'est trompé. Hein. Donc, édition critique. Et texte massorétique, on ne l'a pas. Bah, c'est le texte massorétique, c'est les Juifs de la fin du 1er siècle qui ont modifié la chronologie, qui ont enlevé ce Cainan et puis qui ont modifié la chronologie.
Je vais ajouter un auditeur donc, qui félicite pour l'émission et en particulier pour ce qui concerne le déluge et qui fait remarquer que dans l'œuvre de Rudolf Steiner, on a des arguments certainement en faveur du déluge. Donc Rudolf Steiner qui est le fondateur de l'anthroposophie pour ceux qui ne sauraient pas. Écoutez, Gérard Gertou, un grand merci pour cette présence à notre émission. Donc je rappelle que vous avez publié Le mensonge de la préhistoire. Ça se trouve aux éditions Marco Pieter, 2016. Ça coûte 28 euros, ce qui est tout à fait raisonnable pour un livre de 272 pages. Et il était important, parce que vous avez étudié la sériologie et les datations, enfin, l'histoire de l'Égypte, l'histoire de Sumer, etc., pendant des années. Il était important, donc, un assyriologue comme vous, monte au créneau pour défendre à la fois la chronologie biblique et le récit de la Bible. Donc ça, je vous en remercie, parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin de repères, si vous voulez. À chacun sa vérité, ça marche un certain temps, mais il y a un moment où on a besoin de la vérité. Et donc la démarche scientifique, c'est bien celle-là. Quelques petites annonces, donc il y a le dernier cahier Saint-Raphaël qui concerne les questions soulagées de la douleur, c'est une chose importante. Le dernier numéro du CEP, justement, contient un dossier sur Guy Berthaud, un exemple de scientifique chrétien. Et il y a aussi dans ce numéro un article sur une expérience de soins palliatifs très intéressante, dans laquelle on voit qu'une personne sous soins palliatifs, mais avait conscience, était considéré comme dans le coma, mais avait conscience de tout ce qui se passait et comment il a pu s'en sortir. Il y a eu récemment un numéro de l'Action familiale et scolaire, donc que je vous recommande, dans lequel je remarque d'ailleurs un article sur 250 ans d'histoire des États-Unis. Et l'histoire des États-Unis, c'est quelque chose d'assez important, parce que malgré tout, les Américains, ils sont là, ils ont, même si on a à se défendre contre l'américanisme, il se fait quand même beaucoup de bonnes choses aux États-Unis. Et je rappelle également le prochain colloque du CEP, alors vous avez encore le temps, c'est le 10 et 11 octobre 2026. Le thème, c'est le monde contemporain, un défi à relever. Et il y aura un grand nombre d'intervenants, dont Francis Sanchez, qui est un astrophysicien, sur peut-on débloquer la science? Il y aura justement, à propos de l'évolution, Laurent Billot qui fera une conférence « Faire face aux évolutionnistes ». Pourquoi? Comment? Et je signale aussi la présence de Maxence Eckard. Comment comprendre l'impératif démocratique dans nos sociétés? Donc, rendez-vous à tous, les 8 et 11 octobre 2026. Donc, pour avoir le programme et pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site du CEP, le-cep.org. Et nous sommes au solstice de printemps. Donc, je souhaite à tous les auditeurs de bien profiter de ce jour le plus long. Et je vous dis à tous, donc, au mois prochain.
D'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Dominique Tasso, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 21 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix francs de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.